Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être venus, si nombreux. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui d'ouvrir la troisième édition de ce prix Charles et Monique Morazé. Ce prix est un des cinq prix que nous avons à la Fondation. Les autres prix, c'est plutôt des prix pour jeunes chercheurs, tandis que le prix Morazé récompense des chercheurs confirmés, travaillant sur des thématiques chères à Monique et Charles Morazé, qui sont donc sciences et société et éducation et société. L'année passée, nous avons eu plutôt un lauréat sur sciences et société, et cette année, nous sommes dans plutôt des thématiques éducation et société. Je me permets quelques mots sur les Morazé pour ceux d'entre nous qui ne sont pas familiers de leurs activités et du rôle qu'ils ont eu tant à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme que dans l'essor des sciences humaines et sociales en France. Monique Morazé a œuvré tout au long de sa vie pour une meilleure compréhension de l'Inde indépendante et a été un des piliers et aussi présidente à un certain moment de l'association France-Union Indienne. À la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, Monique Morazé a aidé et soutenu la mise en place du programme franco-indien de coopération en sciences sociales qui a permis pendant des années des très fructueux rapports de coopération scientifique et qui a permis surtout l'invitation de plusieurs générations de chercheurs indiens qui ont passé des longues périodes en France. Charles Morazé, historien de renom, un des responsables de la revue Les Annales, intellectuel de renommée internationale, il a contribué de façon significative au renouvellement de l'enseignement supérieur, à l'essor des sciences humaines et sociales dans plusieurs grandes écoles et grandes institutions d'enseignement françaises, notamment l'école des hautes études, les PHE, l'école pratique des hautes études, l'école polytechnique où il a carrément œuvré pour que on enseigne aussi les sciences humaines et sociales, sciences politiques, Sciences Po, Paris 1, parmi les plus importantes. Et il a créé, avec Fernand Braudel, la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de nous léguer ce prix dont nous sommes très heureux et fiers chaque année de pouvoir le remettre. Donc je laisse la parole à mon collègue Michel Bonin qui va présenter lui le lauréat que je remercie beaucoup d'avoir accepté ce prix et d'être là parmi nous.
Merci Martha. Je voudrais présenter donc le professeur Yan Dongping. Je dois dire que quand Martha et d'autres et Jean-Pierre m'ont dit il y a ce prix, est-ce qu'en Chine il y aurait quelqu'un qui mériterait ce prix, je me suis d'abord renseigné parce que bon, je ne suis pas spécialiste de l'éducation, j'ai demandé à beaucoup de personnes et tout le monde m'a dit ah ben professeur Yan Dongping, ça paraissait évident, hein, donc voilà. Le professeur Yan Dongping, bon, c'est d'abord un universitaire, un intellectuel qui a écrit des ouvrages académiques de grande qualité sur l'éducation, hein, qui est sa principale spécialité, mais aussi sur d'autres sujets comme l'histoire culturelle de la Chine, notamment dans son ouvrage plusieurs fois réédité, qui est une comparaison de la culture pékinoise et de la culture shanghaïenne, cet ouvrage. Il a été jusqu'à tout récemment directeur du centre de recherche sur les sciences de l'éducation de l'Université Polytechnique de Pékin. Mais ses travaux académiques ne sont jamais écrits du haut d'une tour d'ivoire. Le professeur Yang cherche par ses œuvres, mais aussi par son action, à faire progresser la société chinoise, à résoudre, dans la mesure de ses moyens, certains problèmes de son pays. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que cette intervention qu'on pourrait appeler de citoyenne se fait à la fois par une participation à des institutions officielles, mais aussi par une participation très active à des organisations non gouvernementales. Du côté des institutions officielles, le professeur Yang est membre de la Commission nationale des conseillers pour l'éducation. Je vais dire en chinois, et membre du comité de direction pour les examens. Et depuis 1993, le professeur Yang Dongping a été chargé par l'Académie des sciences sociales de Chine du rapport annuel sur le développement de l'éducation dans la fameuse collection des livres bleus sur la société, qui est la référence annuelle sur les questions, sur l'évolution sociale de la Chine. Du côté associatif, il est vice-président exécutif de l'association d'études de Taoxingzhi, Zhongguo Taoxingzhi Yanjiu Hui Changwu Fu Huizhang. Il est également membre du conseil de l'association d'études sur le développement stratégique de la Chine. J'ai oublié le chinois, mais c'est pas grave. Et doyen de l'Institut d'éducation du XXIe siècle. Qu'il a fondé lui-même, institut de recherche qui est non officiel, dont il est le fondateur. L'activité associative du professeur Yang n'est d'ailleurs pas limitée au domaine de l'éducation, puisqu'il est également vice-président de la Fédération des associations caritatives de la capitale, c'est-à-dire de Pékin, et président de l'ONG Les Amis de la Nature, qui est la première association écologique créée en Chine et dont il a été l'un des fondateurs en 1994. Dans le domaine éducatif, les principaux problèmes auxquels il a réfléchi et tenté d'apporter des réponses sont la mémorisation et le gavage des esprits, et surtout l'élitisme et les discriminations. Sa lutte pour une meilleure égalité des chances face à l'éducation est très significative. Il y a beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne les différences entre régions, entre villes et campagnes, et même entre quartiers des villes. En France, on parle depuis longtemps de la question de la carte scolaire. Beaucoup de familles cherchent des appartements dans le périmètre d'un bon collège ou d'un bon lycée, auxquels les familles, n'en ayant pas les moyens, n'ont pas accès. Et je me suis aperçu, en vivant à Pékin ces dernières années, que c'était la même chose en Chine, où les agences immobilières font la différence entre les appartements ordinaires et les appartements dits de quartier éducatif, dont le prix est plus élevé. D'autres problèmes, en revanche, sont plus spécifiques à la Chine, comme celui des enfants des travailleurs originaires des campagnes, qui ne peuvent pas aller à l'école dans les villes où vivent leurs parents, sauf cas exceptionnels. Je me souviens que j'avais participé en 1996 à une grande conférence organisée à Pékin par les ministères chinois du travail et de l'agriculture sur la question des Mingong, c'est-à-dire ces migrants d'origine rurale qui commençaient à devenir de plus en plus nombreux dans les villes. J'avais soulevé la question de l'éducation de leurs enfants après avoir découvert au cours d'une enquête sur les chiffonniers de Pékin que leurs enfants ne pouvaient pas accéder à l'éducation à Pékin. Donc ce problème était vraiment très grave. Il y a eu quelques progrès depuis, mais finalement relativement limités en comparaison avec l'ampleur du problème. Il est donc important que des spécialistes comme le professeur Yang alertent les autorités et proposent des solutions, mais aussi agissent à l'intérieur de la société avec des moyens non officiels pour mettre en place des écoles qui pourront servir de modèle pour une solution plus vaste du problème. Comme vous le voyez, le champ d'action du professeur Yang est essentiellement la Chine, et c'est déjà un champ très vaste, mais en fait, bien des questions qu'il a soulevées sont des questions universelles que l'on retrouve sous diverses formes ailleurs. Toutes les sociétés modernes sont confrontées à la question de la justice dans l'accès à l'éducation, avec des degrés de gravité divers. C'est pourquoi les recherches et les actions concrètes réalisées par le professeur Yang nous intéressent tous. Il participe d'ailleurs à plusieurs échanges internationaux. Mais je voudrais terminer sur une note plus personnelle. Le professeur Yang, né avec la révolution chinoise de 1949, fait partie de cette génération de jeunes citadins chinois qui, à l'époque de la révolution culturelle, ont été envoyés à la campagne pour devenir des paysans et donc ont été privés de la possibilité d'avoir une éducation décente. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai appelé cette génération une génération perdue dans mon ouvrage sur le mouvement d'envoi des jeunes instruits à la campagne. Mais même pour ceux qui, comme lui, ont eu la chance exceptionnelle de pouvoir malgré tout faire des études supérieures au bout de quelques années, il a fallu beaucoup travailler de façon autodidacte pour réussir à atteindre un haut niveau académique. Il a d'ailleurs commencé par faire des études de cybernétique, matière qu'il a ensuite enseignée, mais il a réussi à se réorienter par la suite vers les sciences de l'éducation qui l'intéressaient beaucoup plus. Il faut donc saluer dans le professeur Yang quelqu'un qui a dû lutter pour atteindre un haut niveau académique et qui, ayant réussi personnellement, n'a pas oublié tous ceux qui, dans la société chinoise, sont confrontés à des obstacles dus à leur lieu de naissance, à leur sexe, au niveau social de leurs parents ou à d'autres facteurs, et qui a consenti énormément d'efforts pour un idéal de justice sociale dans le domaine éducatif. Le professeur Yang participe au débat public à travers son blog et son micro-blog, sur lequel il a quand même 2 millions de fans. Personnellement, j'en ai seulement 40 000. C'est d'abord sur la toile qu'il a lancé un mouvement de critique des Olympiades des mathématiques qui transforme, selon lui, les bons élèves en champions sportifs. Il n'hésite pas non plus à critiquer certains lycées d'élite qui sont devenus des symboles de l'inégalité et des privilèges dans le domaine éducatif. Le professeur Yang a également été le producteur de l'émission « Parole vraie » de la télévision nationale chinoise et de l'émission Grande leçon sur le siècle de la chaîne Phoenix TV. Son exemple, donc, à l'évidence, inspire beaucoup de personnes et notamment des jeunes en Chine. Il doit nous inspirer aussi car le développement d'une éducation humaniste accessible à tous, qui ne soit pas une simple marchandise ni un moyen de produire des singes savants ou des robots, mais au contraire des êtres humains ayant des capacités réflexives et critiques, est une noble mission qui transcende les frontières. C'est donc avec une émotion particulière que je félicite le professeur Yang Dongping pour l'obtention du prix Morazé 2015. Et je lui laisse maintenant la parole. Merci.
Merci. 能够获得法国人文之家基金会的这个奖项，首先我应该向这个奖项的设立者，沙赫拉·穆哈泽和他的夫人，莫尼克·穆哈泽，表示感激之情。
Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis très honoré d'être là parmi vous. Et aussi, je suis très honoré, très touché par cette cérémonie de remise de prix. Permettez-moi de rendre hommage d'abord aux fondateurs Charles et Monique Morazé de ce prix dont je suis lauréat aujourd'hui.
Je voudrais exprimer ma感谢，因为在我的青少年时代。 在文化大革命期间和上山下乡的过程当中，雨果、巴尔扎克、罗曼·罗兰、卢梭等等一直伴随着我们的成长。我在上海西区的家，也位于过去的法租界。上海引以为豪的欧陆风情的主要来源，也正是来自巴黎。
Je saisis cette opportunité pour rendre hommage aussi à la culture française, puisque quand j'étais jeune, adolescence comme jeunesse, quand, pendant la révolution culturelle, où j'ai été envoyé à la campagne, et Victor Hugo, Balzac, Romain Rolland, Jean-Jacques Rousseau m'ont toujours accompagné. La lecture, bien sûr. Et ce qui y a un plus, c'est que la maison où je vivais quand j'étais jeune, à Shanghai, dans les quartiers de l'Ouest, se trouvait justement dans les anciennes concessions françaises. Et les Shanghaïens, ils sont très fiers de cette French touch, et moi, je suis bénéficiaire de cette French touch.
Je suis de la France de 2000 那个时候呢，中国的高等教育进入了快速发展的轨道。当时的主题词呢是跨越式发展，建设世界一流大学，发展教育产业等等。也正是在那个时候，巨大的城乡差距、贫富差距越来越突出。每到开学季节，经常会传来因为交不起学费，农村学生或者家长自杀的消息。
C'est à partir des années 2000, hein, que je commence à prêter une attention particulière à l'inégalité, au problème de l'inégalité en termes de droit à l'éducation en Chine. Parce qu'à l'époque, l'éducation supérieure chinoise, l'enseignement supérieur chinois, commence à rentrer, s'engager dans une piste rapide. Et leitmotiv de l'époque, c'est de faire des développements, de réaliser des développements rapides, accélérés, et de faire des universités chinoises des premières universités au niveau mondial, et aussi de développer l'éducation comme si on développait une industrie, un business. Et c'est justement à ce moment-là que les grands écarts entre les zones urbaines et les zones rurales, entre les familles pauvres et les familles riches, se creusent davantage. Et à chaque saison de rentrée, souvent, on a des nouvelles, des faits divers, en quoi des parents qui n'arrivent pas, surtout des parents d'origine rurale, qui n'arrivent pas à payer les frais d'études et qui se suicident pour justement s'excuser vis-à-vis de leurs enfants.
那个，我由于在年轻的时候在上山下乡的经历，啊，使我建立了对农村和农民的感情，所以我资助了一些在农村的贫困大学生和一些代课教师，并经常注意考察农村教育。我逐渐意识到这是一个非常严重的社会问题。面对如此庞大的弱势群体，他们的利益不应该被忽视。我们当时的社会发展观是效率优先，兼顾公平，因此我写了一系列的文章来呼吁应该重视教育公平，应该把教育公平视为是一个独立的发展目标，主张义务教育应当公平优先等等。令人欣慰的是，今天教育公平已经成为国家公共政策的基石。
Et comme j'ai vécu pendant ma jeunesse à la campagne, et j'ai eu des amitiés avec les agriculteurs chinois, et aussi personnellement, j'attache toujours un sentiment personnel à cette région vaste mais pauvre. Et c'est à ce titre-là que j'ai aidé financièrement quelques élèves de familles pauvres, pour les aider à poursuivre leurs études, et aussi j'aide financièrement aussi quelques chargés de cours, et ce qui me conduit souvent à la campagne pour étudier l'état de l'époque de l'éducation chinoise. Et je me suis rendu compte immédiatement qu'il s'agissait d'une question, d'un problème sérieux de la société, parce qu'on doit faire face à une telle masse de population qui sont plutôt classés du côté des marginalisés. Leur intérêt, on ne devrait pas les négliger, on ne devrait pas développer une société qui accorde la priorité à l'efficacité sans penser à équilibrer avec le côté, le volet de l'égalité. C'est pour cela que j'ai écrit et publié une série de textes, d'articles, pour appeler le gouvernement chinois et à la société de tenir compte davantage à l'éducation obligatoire et gratuite, à l'égalité en termes de droit à l'éducation. Et heureusement, aujourd'hui, l'égalité en termes de droit à l'éducation est devenue un des piliers de la politique publique de l'État chinois.
Je voudrais présenter la situation de l'éducation chinoise, 新中国的教育公平的发展经历过三个不同的发展阶段，分别是文革以前的十七年、文革时期 以及文革之后改革开放以来的80年代以来，在不同的时期教育公平的有着不同的状态和问题。
Et maintenant, je vais vous faire un état de lieu de l'égalité en termes de droit à l'éducation en Chine, surtout dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le développement de l'égalité de droit à l'éducation en Chine nouvelle, c'est-à-dire à partir de 1949, pourrait se diviser en trois périodes distinctes. La première consiste à couvrir, la première couvre les 17 ans avant la révolution culturelle, et la deuxième période c'était pendant la révolution culturelle, et la troisième c'était les années depuis les années 1990, autrement dit depuis la réforme de l'ouverture. Et pendant ces trois périodes différentes, il y a aussi des spécificités en termes de l'éducation, en termes de droit à l'éducation, il y a aussi des problèmes différents.
在文革以前和文革当中实行的是一种阶级内的平等，教育在向工农子弟开门的同时，限制了很多非劳动人民子女的教育机会和向上流动的机会。文革时期是毛泽东实现他的社会乌托邦的一个巨大的实验。当时中小学的学制从12年缩短为9年，大学的学制由5年缩短为3年，取消了所有的考试，根据家庭出身和政治表现来推荐工人、农民和士兵上大学，提供的是一种高度政治化的低水平的教育。
Avant la révolution culturelle, c'est-à-dire les 17 ans, et pendant la révolution culturelle, pendant les 10 ans de la révolution culturelle, entre 1949 jusqu'en 1976, la Chine a mis en place une certaine égalité au sein de la classe paysan, ouvrier et soldat. Et l'éducation s'ouvrait aux enfants de paysans, ouvriers et soldats, et en même temps, la Chine a dépossédé beaucoup, a dépossédé le droit de beaucoup des enfants qui ne sont pas issus de classes dites travailleuses. Et donc, on leur a dépossédé aussi l'opportunité d'aller vers l'ascenseur social. Pendant la révolution culturelle, se traduisait par le grand laboratoire de l'utopie de l'égalité sociale de la version de Mao Zedong. Et selon ces ordres, le régime de l'enseignement primaire et scolaire, moyen, l'école primaire, le collège et le lycée, on a raccourci de 12 ans à 9 ans. Le régime universitaire, on a raccourci de 5 ans à 3 ans. Et en Chine, on a supprimé l'ensemble des examens et on sélectionne des candidats à l'université. Des candidats, ce sont des candidats plutôt des paysans, les ouvriers et les soldats en fonction de leur origine familiale et aussi en fonction de leur performance politique. L'État leur présente un système éducatif hautement politisé mais faiblement intellectuel.
Après la guerre, 1977年恢复了全国统一的高考制度，否定了按照身份政治身份的这个阶级路线政策，实现了分数面前的平等。高考制度改变了很多受压抑的青年的命运，大学的教育质量也大为提高。与此同时，基于学习能力的选拔、文化差距、社会资本形成的阶层差距逐渐显现，由政治意识形态所支撑的工农子女在高等教育中的比例开始下降。据当时的一项调查，大学的新生当中，父亲是工人和农民的学生，由1980年代初的40%，到1990年降低到21%左右。
Après la fin de la révolution culturelle, la Chine a rétabli le système de concours national d'admissibilité universitaire, autrement dit, c'est presque le bac français. Et on a terminé la politique, ce qu'on appelle la ligne politique de classe ouvrière, qui, en fait, c'est une ligne discriminatoire vis-à-vis d'autres catégories de la population. Et on commence à mettre en place une égalité devant les résultats de concours. Et ce concours rétabli a changé fortement les destins de millions et des millions de jeunes chinois, et ce qui a permis aussi d'avoir une meilleure qualité progressivement de l'enseignement supérieur. Mais en même temps, force est de constater, comme l'éducation, le système éducatif est désormais basé sur les compétences, et le capital culturel, le capital social commence à faire émerger des écarts entre les couches sociales différentes. Par exemple, auparavant, les enfants de paysans et des ouvriers sont privilégiés et favorisés. Et aujourd'hui, le pourcentage de leurs enfants dans l'éducation supérieure commence à chuter. Selon une statistique, on a fait des statistiques avec des échantillons bien sûr définis. Parmi les jeunes, les nouveaux étudiants, nouveaux revenus dans les universités, les nouveaux étudiants d'origine paysanne et ouvrière chutent de 40% à 21%. C'est-à-dire en 1980, c'était 40%. En 1990, c'est 21%. C'est divisé par deux.
从1999年开始，中国高等学校开始大规模扩大招生，高等教育的毛入学率由1990年代初的 3% 1998年的 7% 左右，提高为 2002年的 15% 2014年已经达到了 37% 进入了高等教育大众化的阶段。人们关心的问题是，高校扩招之后， 教育机会的增长是否改善了教育公平？新增长的教育机会是如何分配的？在新的形势下，教育公平的问题主要是什么？
À partir de 1999, les universités chinoises commencent à élargir le quota de leurs effectifs. Par exemple, le taux de réussite au concours d'admissibilité universitaire augmente d'année en année. En 1990, le taux de réussite était 3%. En 1998, était 7%. Et en 2002, c'était 15%. En 2014, ça devient 37%. Et ce qui fait rentrer l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur chinois, dans une période de ce qu'on appelle la généralisation ou la popularisation de l'enseignement supérieur. Et à partir de là, on commence à poser de nouvelles questions, telles que, après cet élargissement de volume, cette augmentation volumineuse, est-ce qu'on a amélioré l'égalité en termes de droit à l'éducation? Comment on a redistribué les nouvelles opportunités d'avoir accès à l'éducation supérieure? Et dans une nouvelle situation, quels sont les nouveaux problèmes qui s'imposent en termes de l'éducation, de l'égalité, en termes de droit à l'éducation?
Avec l'Europe, la structure de l'éducation n'est pas la même. 由户籍制度分割形成的城乡二元结构，以及重点学校和普通学校的二元结构。
Et contrairement à la structure éducative européenne, la Chine n'a pas ce qu'on appelle l'école privée, qu'on entend ici, qui permet aux enfants de bonne famille de poursuivre leurs études dans une structure spécifique. Ce qu'on appelle l'école des aristocratiques, entre guillemets, existe justement, c'est un parasite, c'est quelque chose de parasitaire qui existe dans l'éducation nationale, dans le système national. Et donc, en fait, cette division la division sociale de l'éducation est basée sur deux régimes spécifiques, propres à la Chine. Premièrement, c'est basé sur la structure duale, la dualité des structures sociales. Par exemple, il y a la structure sociale urbaine et la structure sociale rurale. Et ce qu'on appelle le système de hukou, c'est-à-dire le permis de séjour. Les ouvriers et les paysans, ils n'ont pas les mêmes permis de séjour. Les paysans ne peuvent pas accéder à ce permis de séjour dans les villes. Et deuxièmement, c'est en Chine, il y a des écoles dites privilégiées et les écoles ordinaire. Il y a aussi cette structure duale.
户口制度是中国特有的制度，为了限制人口流动。 在计划经济时代，用户籍制度和人民公社制度，将农民捆绑在土地上，农民的食品供应、教育、医疗服务等等，只能由当地的政府提供。1980年代以后，农民可以进入城市工作，但是他们的农民身份并没有改变，他们的医疗、教育、住房、社保等等仍然与土地挂钩，他们不能享受城市市民的各种公共服务。
Et le système de hukou, autrement dit le permis de séjour, est un système propre à la Chine qui, pour limiter la circulation démographique de la population, et a joué un rôle principal à l'époque de l'économie planifiée. Avec ce système-là, la politique, le gouvernement et les organismes sociaux, de la société fixent. Par exemple, la commune populaire fixe les paysans, attacher les enfants, lier les enfants à leur terre. La nourriture, l'éducation, les soins médicaux sont fournis par les gouvernements locaux. Dans les années 1980, les paysans, certes, pouvaient travailler dans les villes, mais leur statut social n'a jamais été changé. Leurs soins médicaux, le service de soins médicaux, de l'éducation, le logement, la protection sociale sont toujours liés avec leur statut de paysan et liés toujours avec leur exploitation agricole. Ils ne peuvent pas bénéficier des services publics dont profitent les citadins.
Gongban学校制度分为重点学校和普通学校两个层次。 加上城乡区别形成了一个等级化的学校制度，成为凝固阶层差距的重要的机制。激烈的升学竞争导致在不同类型的高中，学生家庭背景的趋同性加强。政府着力扶持的少数城市重点学校，学生主要来自社会的优势阶层，成为研究型大学的主要生源地。
Dans les écoles publiques, les écoles publiques sont divisées, comme on a dit, en deux catégories. La première, ce sont des écoles publiques mais privilégiées, et d'autres, ce sont des écoles normales, générales, ordinaires. Et à cela s'ajoutent les écarts entre la zone urbaine et la zone rurale, ce qui a permis à la Chine d'avoir un système éducatif très hiérarchisé, et qui aussi, comme un dispositif très important, de fixer les classes sociales dans leur domaine, enfin dans leur sphère. La concurrence acharnée en termes de l'accès à l'éducation supérieure a conduit un effet de l'homogénéité des élèves dont le profil familial, social reste identique. Et il y a quelques écoles privilégiées soutenues par le gouvernement local. Par exemple, dans ces écoles-là, les élèves proviennent principalement des classes privilégiées de la société et ces élèves sont aussi source majeure des universités à vocation de recherche.
研究显示，在1999年扩招之后，随着高等教育入学机会的整体扩大，农村学生的入学机会也极大的提高。在2012年， 农村学生的比例达到 59.1%， 与农村考生的比例 60% 基本相当。高等教育入学机会的城乡差距正在从显性的总量不均衡转为更为深层的隐性的教育差距。 高等教育系统中正在出现的分层大致是这样的，在国家重点高校具有较强的文化资本、经济资本和社会资本的优势社会阶层的子女占有较大的份额，农村学生和弱势阶层的子女逐渐减少，教育质量相对较弱的地方性高等学校聚集了最多的农村学生。
Les études montrent qu'après l'année 1999, où la Chine commence à élargir le volume, à grossir le volume d'effectifs recrutés chaque année dans les universités, et on constate que les enfants d'origine rurale, de zones rurales, commencent à avoir plus d'opportunités de rentrer dans les universités. En 2003, par exemple, les élèves d'origine paysanne, la proportion entre les élèves d'origine paysanne, d'origine rurale, et les élèves d'origine urbaine, c'est presque pareil entre les deux catégories, c'est 50% respectivement. En 2012, les élèves d'origine rurale allait jusqu'à 59,1%. Et cela veut dire que l'écart entre la zone urbaine et la zone rurale qui détermine, qui conditionne l'opportunité d'accéder à l'éducation supérieure, commence à passer d'un déséquilibre en termes de volume et d'un déséquilibre visible à une étape, à une nouvelle étape, qui est une nouvelle inégalité, mais qui est moins visible et qui est plus profonde. Le système éducatif supérieur, on peut constater que le système éducatif supérieur est caractérisé par le grand nombre des enfants dans les universités privilégiées, favorisé par l'État, dont le financier est privilégié par l'État, les enfants des familles ayant un capital culturel, un capital économique, un capital social avantageux, et ils représentent la majeure partie. En revanche, les enfants, les étudiants d'origine rurale et les enfants d'origine des classes sociales moins favorisées, moins privilégiées, commencent à se réduire, à dégraisser progressivement. Donc, dans les universités locales de moindre importance en termes de qualité de l'éducation, c'est là où se trouve le plus grand nombre des étudiants d'origine paysanne.
通过对1980年到2008年之间教育机会的一个定量的研究，总体上城市学生的高等教育机会是农村学生的2.56倍，说明高等教育机会仍然存在结构性的不平等，优质高等教育的机会更多的为城市学生所占用。这突出的表现为清华大学、北京大学等优秀大学农村学生的比例逐渐降低，从1980年代最高时的40%降低到目前16%左右，这已经成为当前中国高考制度改革的重要的目标。
Et d'après une étude quantitative menée sur la période entre 1980 et 2008, et on a constaté que les élèves d'origine urbaine, d'origine de la zone urbaine, a une opportunité en termes d'accès à l'enseignement supérieur de 2,56 fois par rapport aux élèves d'origine de zones rurales. Et cela prouve qu'au niveau de l'enseignement supérieur, il existe une inégalité structurelle. Les meilleures opportunités de l'éducation supérieure sont possédées par les enfants de la zone urbaine. Par exemple, à l'université de Tsinghua, à l'université de Pékin, ce sont les universités de premier niveau de la Chine. Le rapport la proportion des enfants d'origine rurale sont trop bas. Par exemple, dans les années 1980, au niveau, le niveau le plus élevé était 40% des étudiants d'origine rurale. Aujourd'hui, c'est 16% seulement. Donc cela devient la nouvelle cible de la réforme du système de concours d'admissibilité universitaire pour le gouvernement chinois.
当前中国教育公平的另外一个新的情况是在大规模的人口流动和城市化进程中出现了两个新的教育边缘化群体，这就是被称为流动儿童的进城务工农民工的子女，以及他们留在农村家中的孩子，叫做留守儿童。这两个群体的总数超过了一个亿。由于城乡分治的管理， 城市社会还没有做好准备接纳他们，农民工子女的教育权利和教育机会成为突出的教育问题。
Il y a un nouveau problème qui émerge dans la Chine en termes de l'inégalité de droit à l'éducation, c'est que au cours d'un processus d'urbanisation et aussi au cours d'une forte mobilité démographique, il y a deux groupes sociaux qui commencent à se voir marginalisés en termes de droit à l'éducation. C'est ce qu'on appelle les enfants mobiles avec leurs parents qui travaillent, qui se déplacent d'une ville à l'autre pour trouver du travail, et aussi une autre partie de groupes sociaux, un autre groupe social, ce sont des enfants qui sont délaissés par leurs parents dans la campagne, parce que les parents travaillent dans les villes, les enfants restent dans les villages et qui commencent à disparaître. Ces deux groupes de personnes représentent à peu près 100 millions de personnes. À cause de la réalité de deux gouvernances, par exemple une gouvernance spécifique à la ville, une gouvernance spécifique à la campagne, les sociétés urbaines ne sont pas encore prêtes à accueillir les enfants des ouvriers d'origine paysanne, et leur droit à l'éducation, l'égalité de leur éducation devient aujourd'hui un problème aigu.
为了改善社会公平，中国政府和社会力量一直在不懈的努力。中国的公民社会从无到有，从小到大，我作为大学教授，也在实际的参与行动，是中国的三个著名的 NGO 自然之友。 北京市西部阳光农村发展基金会、21世纪教育研究院的发起人和理事长。自然之友是中国第一个民间环境保护组织。西部阳光基金会主要在中国西部的甘肃农村开展乡村幼儿园建设、农村教师培训等工作。21世纪教育研究院是从事教育公共政策研究的民间教育智库。
Pour améliorer la légalité, la justice sociale, les forces vives de la société citoyenne chinoise travaillent d'arrache-pied, ainsi que les ONG, c'est-à-dire la société civile, commence à apparaître. Moi, en tant que professeur universitaire, je m'engage aussi sur des terrains pour mener des actions pour améliorer cette justice, l'état de justice sociale et de l'éducation, de l'égalité en termes de droit à l'éducation. Et j'ai créé trois ONG. Le premier, c'est l'Ami de la Nature. Deuxième, c'est la Fondation pour le développement de la région rurale. Autrement dit, les lumières qui vont rayonner à la partie ouest de la Chine, de Pékin. Et troisième ONG, c'est l'Institut de recherche de l'éducation du 21e siècle. Je suis à la fois fondateur et président du conseil. Et les Amis de la Nature est le premier organisme civil, qui a vocation de protéger l'environnement et l'écologie. La Fondation de développement des régions rurales les lumières qui vont rayonner sur le Grand Ouest, là, avec cet organisme-là, nous travaillons davantage à la région, vaste région rurale du Grand Ouest de la Chine, pour développer des infrastructures en termes de l'école maternelle et aussi en termes de la formation des professeurs, des enseignants qui enseignent à la campagne. Et l'Institut de recherche de l'éducation du XXIe siècle, c'est plutôt un think tank pour le gouvernement chinois, pour leur apporter des conseils sur la politique publique de l'éducation.
21世纪教育研究院是主要从事教育公共政策研究的民间教育智库。 我们一方面直接参与国家层面的教育改革和政策的制定，更主要的是通过社会参与的方式影响和改变教育。我们举办论坛、研讨会、讲座、沙龙、读书会等出版著作，与电视台合作制作电视专题片，开展多种关于教育政策的理论讨论和传播。我们主编的《中国教育蓝皮书》从2003年起出版至今。
À travers ces activités, nous participons directement à la définition de la politique de réforme du système éducatif. Et plus spécifiquement, nous travaillons à travers la participation à la société civile, des activités sociales, des actions sociales, pour influencer et pour apporter une influence positive à la réforme. Nous avons tenu des forums, des colloques, des salons, des conférences, et des lectures aussi, à travers la publication, à travers les documentaires, des films documentaires réalisés avec des antennes de télévision. Et nous essayons de diffuser des nouvelles idées et aussi diffuser les résultats de débats publics sur la politique de l'éducation, sur l'éducation. Mais le livre bleu que j'ai édité comme chef éditeur, le livre bleu de l'éducation chinoise, est publié depuis 2003, d'année en année, chaque année, et nous avons maintenant une version en anglais.
我们关注通过教育创新来促进教育公平。今年4月，我们借鉴多哈的世界教育创新大会，就是WISE， 举办了 LIFE 教育创新峰会，是对今年来中国教育创新的一次检阅。我们希望构建这样一个平台，集中全社会的智慧，反思教育存在的各种问题，并寻求创新性的解决方案，促进体制内外。 不同群体的了解和合作，促进教育界内外更多的人起而行动。
Et en même temps, nous attachons une importance particulière à des actions d'innovation pour favoriser l'établissement de l'égalité en termes de droit à l'éducation. En avril 2015, nous sommes inspirés de l'expérience de WISE, c'est le congrès mondial de l'innovation. De l'éducation tenue à Doha. Nous avons, en Chine, tenu un sommet de l'innovation dans le domaine de l'éducation, Life Education Innovation Summit. Et c'est une révision de la politique de l'éducation chinoise depuis des années, depuis ces dernières années. Et nous souhaitons construire une telle plateforme pour concentrer l'énergie et la sagesse de l'ensemble de la société chinoise pour nous interroger de manière pertinente sur tous les problèmes qui existent et essayons aussi de trouver de nouvelles solutions de manière innovante. Et à travers ces efforts, nous essayons d'associer les gens à l'intérieur du système et des gens à l'extérieur du système, des institutions, à travers la coopération entre les gens de différents groupes sociaux pour favoriser l'engagement et aussi la participation davantage de personnes dans le système éducatif comme en dehors du système éducatif à travailler, à prendre des actions dans le bon sens.
Je voudrais 这位那个徐梦小姐就是那个 YS 驻巴黎的代表。
Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Mademoiselle Xu Meng, qui représente WISE à Paris.
在今年的这次会上，我撰写了一个《人本主义教育宣言》，提出人是教育的起点，也是教育最高和最终的目标。人本身就是目的，而不能以任何理由成为任何形式的工具。我认为中国的教育改革需要改变具有1300多年历史的科举教育的陈旧传统，需要改变在19世纪大工业时代形成的学校制度，需要改变在60年前移植苏联的教育体制，从而走向以人为本的教育，以儿童为中心的教育，以学习者为中心的教育，为生活做准备的教育。
Le manifeste pour une éducation humaniste. Et j'ai avancé dans ce manifeste que l'homme doit être le point de départ de l'éducation. Et il est aussi le point d'arrivée. C'est l'objectif supérieur de l'éducation. L'homme doit être lui-même un objectif et ne peut être en aucune raison se réduire à un quelconque instrument, un outil. Je pense que pour mener à bien la réforme de l'éducation chinoise, nous devons modifier, nous devons changer de l'ancienne tradition archaïque de concours national de mandarinat qui a perduré pendant plus de 300 ans. Nous devons aussi apporter un changement au système éducatif formé à l'époque d'industrialisation du 19e siècle. Nous devons apporter aussi des changements au système soviétique dont nous avons hérité, l'hérité encore aujourd'hui. Il faut que nous préparions à créer un nouveau système éducatif qui a pour l'homme au centre, à la priorité, pour l'homme comme priorité, et l'enfant pour priorité, comme centre de notre système éducatif, et aussi tout ce qui après, pour notre priorité, pour qu'ils puissent préparer dans toute leur vie, à travers le système éducatif.
中国的教育改革正在路上，我们会继续努力。衷心的感谢各位的聆听。
La réforme du système éducatif chinois est en cours. Nous allons travailler davantage pour atteindre nos objectifs. Merci beaucoup pour votre attention.
Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Je vais amener le micro parce que c'est important que.
就我想知道，就是现在中国的那个文盲的人数多不多？因为有一段时间，我觉得就是文盲好像增加了，我不知道有这种感觉。就是这次我在北京那个医院里，因为我先生在医院里，我去办一个档案的东西，要填表，很简单的几个。两个人都不会填，都比我年轻，他就看不懂，跟他说了很多遍姓名地址，就特别简单的又重复一遍，就是我就在想这个文盲的人数不是，就是大家排队要档案，就是这个医院里头他发那个档案，就是排队领的时候就病历领的时候要填个表，就有两个人不会填，那个年都比我年轻，我就想中国的文盲现在是不是增加？
Sa question consiste à poser la question, à adresser à professeur Yang pour savoir est-ce que aujourd'hui en Chine actuelle est-ce que le nombre de illettrés, illettrices a augmenté ou a baissé? Parce que elle a vécu une expérience assez douloureuse à Pékin cette année quand elle est allée à un hôpital où travaille son mari. Elle a constaté qu'il y a deux jeunes gens qui sont plus jeunes qu'elle, bien sûr, qui ne savent pas remplir un formulaire, le nom, l'adresse, etc., pour constituer leur dossier médical. Donc la question.
这个问题是非常具有挑战性的，因为中国政府的工作目标在2000年就2000年就已经基本扫除了青壮年文盲， 是一个工作的基本目标。所以按我们现在的政府的统计呢，这个文盲率是非常非常低的啊。但是或者说现在社会存在的文盲呢，都是老人，就是在年轻的时候没有接受过教育的。但是你刚才反映的这个问题呢，也是很真实的存在的。也就是说，在我们有很多偏僻的地区，虽然已经普及了义务教育，但是他们到小学六年级毕业的时候，甚至还不会写自己的姓名。这就是中国普及义务教育的现状。因为我们知道，我们也听到过这样子的案例，比如说在中国的海南，这种情况就非常，就是听说过这样子的案例。
En effet, c'est un grand défi à relever pour le gouvernement chinois. D'abord, le gouvernement chinois dit qu'aujourd'hui, le taux d'illettrisme reste très faible en Chine, parce que le gouvernement a fixé un objectif d'éliminer, enfin, pas éliminer, de réduire à zéro le taux d'illettrisme, surtout parmi les jeunes et la jeunesse et l'adolescence. Mais on constate toujours que, premièrement, le gouvernement dit que ceux qui ne savent ni lire ni écrire sont plutôt des gens de générations précédentes qui n'ont pas eu l'opportunité d'accéder à l'éducation primaire. Mais il y a aussi d'autres cas qu'ils ont identifiés aussi dans beaucoup de régions rurales chinoises. C'est qu'il y a des jeunes qui sont même, après 6 ans de l'école primaire, ils ne savent pas écrire leur propre nom, encore moins des adresses un peu compliquées. Et ce qui se trouve non seulement dans les régions très reculées de la Chine, mais aussi, on a identifié des cas dans l'île de Hainan, qui est quand même une vitrine de la Chine. Donc, en fait, l'état actuel de l'illettrisme, et aussi l'état actuel de l'éducation obligatoire et gratuite nationale, l'éducation nationale obligatoire et gratuite, en fait, il y a beaucoup de variétés aussi dans cette réalité. Il y a aussi beaucoup de diversité à prendre en compte.
Je voudrais d'abord remercier le professeur Yang pour la qualité de sa présentation. Et je ne suis pas un spécialiste de la Chine, mais j'ai beaucoup apprécié l'angle sous lequel l'analyse a été faite. Ma question ne sera pas exactement sur la thématique enseignement supérieur, justice et société, mais plus sur le contenu de l'enseignement supérieur. Depuis que le président Xi Jinping a mis en avant ce qu'il a appelé le rêve chinois, dont on voit bien qu'il s'agit à la fois de renforcer la Chine, mais de lui donner un rôle plus important dans le monde, est-ce que cette volonté politique forte se traduit au niveau des programmes dans certains secteurs de l'enseignement supérieur? Et si oui, qu'est-ce qui est le plus renforcé? Est-ce que c'est la mise en avant du prestige et de la puissance de la Chine, ou est-ce que c'est aussi les modalités de l'ouverture de la Chine vers le monde?
Je pense que la Chine, en 2010, a créé une réforme de long terme de développement.在那个规划当中呢，提出了一个目标，就是在2020年基本实现教育现代化，进入人力资源强国和高等教育强国的这个行列。现在离完成这个目标还有5年。
J'aimerais bien souligner que en 2010, la Chine a publié un programme de la réforme de l'éducation nationale chinoise, à moyen terme et à long terme.C'est-à-dire, on a fixé un objectif à l'horizon de 2020. À l'époque, la Chine serait probablement la première puissance, enfin une des puissances en termes de l'éducation modernisée et aussi en termes de l'éducation, enfin d'enseignement supérieur aussi. Ah oui, aussi, va devenir une puissance de l'enseignement supérieur, tout à fait modernisé, mais aussi la puissance de la gestion de ressources humaines.
所以呢，这个问题涉及到如何来 定义这个教育现代化。我在我们的观点看来呢，我们到2020年的时候能够实现的呢，主要是硬件的现代化啊，也就是教学设备啊、教学设施。但是，正如您提出的，在教育的内容、培养目标、价值观这些方面呢，我们还离这个现代化的目标还有很远的距离。
Et à ce que je comprends, en effet, qu'on pourrait atteindre facilement l'objectif de la modernisation de l'éducation chinoise, mais tout est une question de la définition de cette modernisation, de modernité. Et par exemple, on peut très bien être une puissance de l'éducation, de système éducatif modernisé avec des hardware tout à fait de premier niveau mondial, mais au niveau de contenu, comme vous avez indiqué à juste titre, le contenu, par exemple, les valeurs, hein, le système de valeurs, et d'autres domaines, par exemple, la pensée, les idées d'innovation, etc. Je pense qu'on est très loin, encore très très loin, des objectifs de la modernité.
Ça montre que c'est une question qui est très typique, c'est que les Chinois, les petits étudiants, surtout les petits étudiants, leur pression de travail est très grande.作业时间非常之长，睡眠时间严重不足。但是中国的大学是没有淘汰率的，每一个进入大学的学生都可以很容易的获得毕业文凭啊，是我相信是全世界唯一的没有淘汰率的大学。
Il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est que aujourd'hui, d'une part, les jeunes enfants, ils vivent sous de très haute pression.Ils n'ont pas le temps de repos, de loisirs, de jeux. Ils doivent travailler davantage au dépens de même de leur temps de sommeil. Mais d'autre part, on constate aussi que dans les universités, il n'y a pas d'élimination, il n'y a pas de taux d'élimination. Tout le monde peut réussir à son diplôme, etc. Et c'est presque la Chine est devenue presque le seul pays où il n'y a pas cette élimination de système universitaire.
所以那个政府对于提高高等教育的质量，高等教育改革也提出了很多规划，也建立了很多工程，但是我个人觉得，由于我们现在的这个管理体制，由于我们现在这种高度行政化的管理体制，所以这些改革的计划呢，通常都是主要还是开会和那个文件，也就是说对现实的改变比较小。因为在尤其是在中国最优秀的大学，他现在呢给他确定了一个行政级别，就叫副部级的大学，清华北大，所以呢他的干部呢主要是由中央组织部来任命和管理的，而他们的确是把校长作为一个行政干部来管理的，以至于造成去前两年就浙江大学，中国很著名的一所大学。他的两年期间换了三位校长。
Et à cela, il faut ajouter aussi que même le gouvernement chinois a préparé un programme d'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur en Chine. Mais force est de constater que ce programme de réforme de système éducatif en termes de qualité de contenu se traduit plutôt par des volumes et des volumes de documents, des directives.Qui sont souvent très éloignés de la réalité et des réalités du terrain. Et il y a un problème structurel, c'est la gestion de l'université, non par les intellectuels, par les scientifiques, les professeurs, mais par le parti communiste. Il y a une haute instance qui s'appelle ministère, mais en fait ce n'est pas le ministère, c'est l'organisme.Le département d'organisation du Parti communiste chinois qui nomme les présidents de l'université. Par exemple, l'université de Tsinghua, c'est presque la meilleure université chinoise, mais qui est classée au même niveau hiérarchique qu'un vice-ministre chinois de président. Donc, à ce titre-là, l'université du Zhejiang, qui est lui aussi une des universités très prestigieuses de la Chine, pendant un an, on a changé trois présidents. Mais c'est toujours le parti qui décide la présidence.
所以我们国家也提出了要建设现代大学制度这个目标，但是和经济领域相比，像现代企业制度已经在中国已经确实已经建立了， 已经深入人心了，但是现在大学制度是什么，很多人还是说不清楚的，就说明这个过程啊，还有很漫长的道路。
Certes, on a avancé le thème de la modernisation de l'enseignement supérieur. Et on a dit moderniser, par exemple, beaucoup de choses à moderniser. Surtout, on a beaucoup réussi en Chine dans le domaine économique, par exemple. On met en avant le thème des entreprises modernes. Là, c'est un concept très populaire et c'est plutôt réussi. En revanche, dans le système éducatif, qu'est-ce que c'est la modernisation ? La définition prête à beaucoup de débats, à beaucoup de confusion aussi.